France Culture.
Moi, ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai rencontré pour la première fois le travail d'Aline Gray, c'est sa minutie, son humour dans les objets et son attention aux détails, à la mesure du corps et la manière dont elle a jonglé avec plusieurs styles.
Aline Gray est une architecte exceptionnelle. Elle est pionnière d'un point de vue du design qu'elle propose, de ses projets d'architecture, mais aussi en tant que femme dans l'architecture.
Aline Gray, 1878-1976, Intimité moderne. Un documentaire de Camille Regache, réalisé par Agnès Catou.
Elle est d'abord considérée comme architecte d'intérieur et quelqu'un qui est un designer de meubles, de paravents, de choses comme ça. Donc elle est un petit peu à part.
Charlotte Malterbarth, architecte et urbaniste.
Mais comme elle s'approche très près de l'architecture, très rapidement, en fait, elle attire l'attention des architectes et elle fréquente en fait ce milieu architectural avant Première Guerre mondiale et ensuite entre deux guerres. Donc c'est une architecte irlandaise, issue d'un milieu privilégié, ce qui lui permet d'avoir accès à une éducation plutôt artistique qu'architecturale, et qui ensuite lui permettra surtout de financer certains projets qui lui tenaient à cœur, et donc d'avoir une place finalement dans le milieu architectural. Et elle devient ensuite connue, enfin dans le milieu, de nouveau ça reste quand même assez confidentiel, par la maison E1027 qu'elle dessine et qui devient un exemple phare de ce qu'on se considère être l'architecture moderne de l'époque.
Aline Gray est de celles qui avaient une vision singulière sur le monde. Architecte discrète, pionnière du design, femme libre dans ses amours pour les femmes comme pour les hommes, celle qui a brûlé ses archives peu de temps avant sa mort, lègue des villas devenues iconiques, des meubles remarquables, mais surtout beaucoup de questions sur ce qui l'animait, son caractère, ce qui alimentait son indépendance et sa solitude choisie. Aline Gray ne s'est jamais revendiquée d'un quelconque mouvement pour les droits des femmes, mais vue depuis notre époque, sa conception des espaces alimente les lectures féministes et queer. En ne laissant subsister de sa pensée que son œuvre, Aline Gray a laissé la porte ouverte aux interprétations, relectures, projections, son œuvre devenant un miroir des considérations contemporaines. Une forme de renouvellement de sa modernité, un siècle après elle. Alors en l'absence de texte, comprendre sa pensée, c'est déjà comprendre son architecture. Alors nous sommes sur la Côte d'Azur, on vient de marcher quelques minutes le long de la voie de chemin de fer depuis la gare de Roquebrune-Cap-Martin. Et là on se trouve en haut d'un petit chemin qui descend vers la mer. Il y a les orangers au loin et on a une vue sur toute la côte, tout le flanc de montagne qui remonte avec des villas accrochées jusqu'à très très haut. On va descendre vers la villa E1027. Comme l'indique le petit panneau qui est juste à ma gauche, Villa E1027, Aline Gray et Jean Badovici.
Je suis Elisabetta Gaspard, chargée des publics et de la communication à Cam Moderne, site Aline Gray Le Corbusier. Alors, nous sommes dans les jardins de la Villa E1027. Donc, le jardin n'est pas très grand, il est en restanque, donc ça veut dire en terrasse. On est entouré de citronniers. Et c'est exactement le même terrain comme en 1929, quand la maison a été terminée. Elle est assez isolée, cette maison. Mais il y a quand même la voie de chemin de fer qui passe à l'arrière, parce qu'elle date déjà de la Belle Époque. Les riches hivernants venaient sur la Côte d'Azur en train, jusqu'à Menton. Donc la gare, elle date de 1869. Et on est à 600 mètres de la gare. Donc c'est un accès très très facile. En sachant qu'Aline Gray, quand elle venait, elle n'est pas venue très souvent parce qu'elle quitte la maison en 32, mais elle venait en voiture de Paris. Il y a un seul chemin pour arriver ici, c'est ce sentier des douaniers qu'aujourd'hui on appelle la promenade Le Corbusier. La vue, elle est quand même très proche de celle qu'on pouvait avoir à l'époque.
Antide Vian, vous êtes administrateur du Centre des Monuments Nationaux Alpes-Maritimes. On a la mer avec nous, dans notre dos. On est face à E1027. Est-ce que vous pourriez nous décrire la villa ?
Ou avant tout se figurer que cette villa, elle évoque un bateau. Et c'est pour ça qu'elle est si proche de la mer, d'ailleurs. Elle en reprend les codes. C'est pas une limitation d'un bateau, mais elle reprend ses codes de la navigation et c'est une forme d'invitation au voyage. Et c'est d'ailleurs une inscription que l'on va retrouver sur l'un des murs de cette villa. Et de fait, tout pousse au voyage dans cette villa.
Entrez lentement. Chapeau. Défense de rire.
Quand on rentre lentement, puisqu'on y a été invité de cette manière-là. Et de fait, si on rentrait vite, on se cognerait assez facilement sur un dispositif appelé à l'époque épine par avant, qui est une sorte de petite cloison fonctionnelle dans laquelle on va trouver un petit logement pour ranger son pardessus. Dans le dos, on a un meuble à chapeau éclairé par un puits de lumière. On peut accrocher sa veste et puis on a un éclairage sous lequel on a un de ces petits pochoirs qui parcourent tous les murs de la maison, de temps en temps en mentionnant des indications très fonctionnelles. On vous explique à quoi servent les choses. Et puis de temps en temps, des indications un petit peu plus poétiques ou amusantes, comme celle-ci qui nous dit « défense de rire ».
Oui, alors l'entrée se trouve côté nord de la maison. Et en fait, il y avait deux indications. Il y avait évidemment « entrer lentement », qui signifie qu'on rentre dans la maison avec calme, élégance et silence. Mais il y avait une autre indication à gauche, où c'est indiqué « sens interdit », parce que c'était l'entrée pour la gouvernante. Donc on comprend déjà dans la maison qu'il y a deux façons de la parcourir, et c'est une maison pour avoir du personnel.
Contre le mur plein, un grand divan de 2,20 m sur 2 m, où l'on peut s'allonger ou s'asseoir pour se reposer ou converser à l'aise. Meuble indispensable qui peut se transformer en lit. Des fauteuils, des sièges, des paravents, des tapis de haute laine, la couleur chaude des cuirs, l'éclat mat de l'étain, la profondeur des coussins contribuent à créer l'intimité d'une atmosphère où une carte marine éclairée la nuit met une note ingénieuse, évoquant les voyages lointains et provoquant la songerie. Les tapis même, par leur couleur et leur forme, font penser aux horizons marins.
Cette villa, elle est conçue comme un espace assez ouvert. Ouvert à l'intérieur, c'est le plan libre. Ouvert sur l'extérieur aussi, avec de grandes baies vitrées qui laissent rentrer la lumière, mais pas trop le soleil. C'est là toute la magie aussi de cette invention, avec un auvent qui casse les rayons du soleil, mais des grandes baies vitrées en accordéon qui permettent de régler le flux d'air. À l'intérieur, les espaces sont pas cloisonnés, ou très peu, mais on va retrouver des indications au sol, des carrelages de couleurs différentes qui nous définissent un petit peu les espaces, des espaces de repos, des espaces pour prendre son repas, avec un carrelage qui a une teinte légèrement différente, mais qui marque au sol les différentes fonctions de la pièce. C'est un espace un petit peu polyvalent. On voit un grand lit de repos dans lequel on peut dormir aussi. On peut recevoir du monde. On peut également disposer une grande table pour recevoir des amis, puisque cette maison, elle est faite, et on le sait, dans la publication que font Hélène Gray et Jean Badovici en 1929, elle est faite pour un homme seul et sportif qui reçoit des amis.
La maison a été construite pour un homme aimant le travail, les sports, et aimant à recevoir ses amis. Bien qu'elle soit très petite, elle devait être agencée de manière à permettre à son occupant de recevoir des amis et leur donner toutes leurs aises. Le style camping permettait seul de résoudre cette difficulté d'ailleurs exceptionnelle. On a eu recours à lui sans croire un instant qu'il puisse donner une formule normale, ni qu'il soit le style de demain, mais simplement comme une méthode commode pour une circonstance exceptionnelle. Chacun, même dans une maison de dimension réduite, doit pouvoir rester libre, indépendant. Il doit encore avoir l'impression d'être seul, et s'il le veut, entièrement seul. Ce qui nous a amené à désaxer les murs pour éviter que les portes soient visibles.
On a dans l'angle de cette salle principale un paravent en bois articulé qui est fixé sur des rails au sol. Donc celui-là, on ne le déplace pas à l'autre bout de la pièce. En revanche, il est articulé, il permet de fermer la cloison, de séparer ce grand lit de repos de ce petit espace de lecture et de repos également. Alors là, qui évoque une petite cabine de bateau. Là, on navigue. On nous signale où sont les oreillers. Faut bien imaginer qu'un homme seul et sportif qui reçoit des amis, les amis connaissent pas forcément la maison, mais ils ont la capacité d'y vivre quasiment en autonomie, parce qu'on vous le dit, on a oreiller et juste au-dessus, moustiquaire. Moustiquaire, c'est très important ici.
Moustiquaire. Plateau. Garde-manger. Pyjama.
Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que cette villa, c'est une œuvre totale. C'est pas simplement une enveloppe architecturale qui serait en elle-même magnifique et un concentré de technologie et de modernité. Non, elle est faite aussi avec son mobilier. Je dirais même qu'elle est faite autour de son mobilier, parce que c'est aussi ça, sa particularité. C'est pas un espace vide dans lequel on va essayer de trouver la place de chaque meuble, mais on définit les fonctions au préalable, tout est pensé très soigneusement, et on fait la villa autour, d'une certaine manière.
On est dans un mobilier qu'Ellingré elle nomme de style camping. Donc l'idée, c'était d'avoir quelques pièces qu'on puisse utiliser à l'intérieur, à l'extérieur ou changer d'emplacement de façon très facile. Alors si on s'approche, c'est la table à petit déjeuner. Le vrai nom, c'est ça. On l'appelle aujourd'hui communément la table 1027 parce qu'elle a réalisé pour la maison. On peut voir que...
La table pour petit déjeuner est spécialement dessinée, comme son nom l'indique, pour pouvoir prendre le petit déjeuner au lit. De fait, le piétement en acier présente une forme ouverte et de faible épaisseur afin de se glisser sous le lit et de contourner éventuellement un pied de sommier.
Son pied est inspiré au fait d'un instrument de musique, qui est le trombone. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, on enlève cette petite chaînette qui est là. Et on peut la régler à hauteur. Et c'est très pratique, surtout si on est dans le lit, parce que vous voyez, les pieds sont arrondis, donc ils glissent sous le lit. Sinon, c'est une table qu'on peut utiliser dans un salon. Bon, c'est le cas, par exemple, ici dans la pièce principale. Il y a une petite poignée ici, et elle est très très légère, et on peut la déplacer où on veut. Voilà. On a des meubles qui ont été réalisés par Ellingré avant la construction de la maison, comme le bibendum, et qui est présent dans...
Le fauteuil bibendum est un confortable siège composé de boudins horizontaux superposés, recouverts de toiles enduites et d'un piétement en acier nickelé. Le nom donné à ce fauteuil par l'architecte vient du lien formel et humoristique que le meuble entretient avec le personnage éponyme inventé en 1894 par Édouard Michelin, constructeur de pneumatiques Auvergnat. Par cette référence au bonhomme Michelin, Ellingré perpétue ainsi dans son architecture, et particulièrement à E1027, la présence du monde de l'automobile et du voyage.
Après, on a d'autres pièces qui sont...
Élément emblématique du mobilier de E1027, le fauteuil Transat marie à la fois légèreté, élégance et confort. Grâce à une structure légère en sycomore verni, des assemblages en acier nickelé, une assise suspendue en hamac et un appui-tête à inclinaison réglable. Bien qu'il rappelle les sièges de pont des bateaux de la Compagnie Générale Transatlantique et qu'il en reprenne le nom, l'origine du dessin de ce fauteuil provient d'un siège extérieur en vannerie issu du commerce, dont une paire est utilisée sur la terrasse ou dans les jardins de E1027.
Donc on a un fauteuil qui est très ergonomique, qui est très léger là aussi à porter et qui peut être, comme il est en toile enduite, positionné à l'extérieur.
Cette villa 1027, elle est largement ouverte sur l'extérieur. Non seulement parce qu'on voit l'extérieur, mais parce qu'on peut y aller aussi avec ce balcon qui évoque aussi les coursives d'un bateau. Parce qu'on a ces codes de la navigation. Si on regarde de manière un peu simplificatrice, toutes les façades sud intérieures de la villa, tous les murs, le mobilier, on a plutôt des teintes bleues qui évoquent la mer. Et puis ici, on se tourne plutôt vers le nord, on va s'apercevoir que les rideaux, le mobilier, la tête de lit, tout ça, reprennent les teintes de ces rochers que l'on aperçoit derrière, cette montagne plutôt dans les teintes rouges ocre. Et donc on a une villa qui est une sorte de miroir de son paysage, qui disparaît presque d'une certaine manière entre le bleu de la mer et l'ocre de la montagne.
La terrasse devant la grande salle continue cette dernière et la prolonge quand les panneaux des fenêtres sont repliés contre les piliers. On a remplacé la balustrade pleine par une balustrade en toile, facilement amovible, qui permet l'hiver de se réchauffer les jambes à la chaleur du soleil. Partout jouent librement l'ombre et la lumière, et l'air venu de l'horizon lointain. C'est une cour privilégiée où l'on peut, suivant l'heure et suivant les humeurs du temps, s'abriter ou s'étendre en plein soleil.
Chaque fenêtre, chaque point de vue a été pensé. On a ici un cadrage sur ce balcon avec ce auvent bleu dans la partie supérieure qui casse les rayons du soleil et puis aussi dans la partie basse au niveau du garde-corps. Et tout ceci, ça cadre la mer, ça cache les frondaisons des arbres en haut, ça cache la végétation au sol et on ne voit que du bleu. Le bleu de la mer et le bleu du auvent.
Quand la mer est mauvaise et l'horizon marin triste, il suffit de fermer la grande baie du sud, de tirer le rideau, puis d'ouvrir au nord la petite baie qui donne sur le jardin de citronniers et sur le vieux village pour trouver un horizon tout différent, où les masses de verdure remplacent les étendues bleues et grises.
Alors on est rue Bonaparte, au 21, là où, dans un hôtel particulier, Ellen Gray, la designer, architecte et irlandaise comme l'indique la plaque, a vécu une grande partie de sa vie, puisqu'elle y arrive en 1907 et qu'elle va y rester jusqu'à sa mort en 1976.
Catherine Gonard, spécialiste de l'histoire des artistes femmes et de l'histoire LGBT.
Il y a une belle cour pavée, puis on a la chance de pouvoir y entrer. Les portes sont grandes ouvertes. Comme on est au début du printemps, quelques fleurs dans les arbres. Un bel espace, on peut imaginer même qu'elle a pu y garer sa voiture, puisqu'elle est une des premières femmes à avoir conduit une voiture à Paris. Une belle bâtisse qui, là, maintenant, est tout en blanc. On peut imaginer que c'est au premier étage, celui qu'on voit là, juste devant nous. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on est à trois pas de l'école des Beaux-Arts de Paris. Et que là, les femmes ont été interdites d'enseignement jusqu'en 1897. Et les premiers ateliers vont être en 1900. Et donc, pour les filles qui voulaient venir à Paris pour avoir un enseignement, comme l'a fait Ellen Gray, elles devaient aller dans des académies privées, comme Coloracy, où elle va aller avec ses amis, et comme l'Académie Julian. Mais aussi, elle va rencontrer beaucoup d'étrangères, notamment juste après-guerre. Il va vraiment y avoir un nombre incroyable d'Américaines, même d'Anglaises aussi qu'on oublie, etc., qui vont être dans Paris. Donc, c'est une communauté. La liberté et tout ce qui est en train de s'y passer aussi, de nouveau au niveau des arts et tout ça, je pense que tout ça l'attire. Et puis, il y a de nombreuses femmes célibataires aussi, comme elle. Donc, elle va avoir des exemples d'indépendance. C'est d'abord pour elle des modèles et une possibilité offerte d'être enfin libre. C'est-à-dire, on sait qu'on peut le faire puisque d'autres le font aussi au même moment.
Ellen Gray, elle a un appartement elle-même, elle est propriétaire, elle vit seule avec son employé. Enfin, elle est vraiment...
Charlotte Malterbart, architecte et urbaniste, autrice du roman graphique Ellen Gray, une maison sous le soleil.
Elle prend des cours d'aviation, de pilotage, et puis elle voyage, bien sûr. Donc elle visite ce qu'on appelle le Grand Tour, la Grèce, l'Égypte, et elle le fait seule en partie. Donc on est déjà dans une certaine émancipation d'une tutelle parentale ou masculine. Donc elle est vraiment quelqu'un de complètement émancipé et peut-être solitaire, mais pas que. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui était, qui avait un caractère profondément indépendant et qui a mené sa vie comme elle l'entendait finalement. Elle a eu cette chance de pouvoir le faire. Alors elle n'est pas connue tout de suite pour son travail architectural, elle est connue pour son mobilier. Alors de manière assez incroyable, elle s'intéresse à la laque, qui est un matériau assez mystérieux, assez toxique aussi. D'ailleurs, elle tombe malade à force d'utiliser la laque, qui a des caractéristiques chimiques qui en font un matériau qui n'est pas toujours sain. Mais elle en tire en fait des meubles incroyables, notamment des paravents laqués qui sont magnifiques avec des motifs splendides de personnages. C'est un savoir qu'elle a développé avec des maîtres laqueurs. Donc au début, on est plutôt dans des formes peut-être plus organiques d'une certaine manière. Elle fait aussi un sofa qui est en fait une sorte de pirogue avec des fourrures qui en débordent, quelque chose d'assez luxueux, d'un peu lascif à la limite de cette définition. Donc on est plutôt dans des matériaux et des matières assez luxueuses et des formes plutôt organiques quand elle commence en fait. Elle est aussi beaucoup dans le textile, donc elle s'associe avec une autre designeuse et elle dessine des tapis. Donc elle est vraiment dans le mobilier intérieur.
Catherine Gonnard, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé ensemble, c'est la boutique qu'elle ouvre et pour le coup, elle n'est pas du tout située dans ce coin de Paris.
Il s'agit de la galerie Jean Désert. Et donc c'est au 217 rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est la première boutique qu'elle va ouvrir. À signaler, elle choisit de mettre un nom d'homme pour faire plus sérieux, où elle va pouvoir montrer ses tapis notamment aussi, qui sont manifestement ce qui se vendra le mieux, et qu'elle fait au départ avec Evelyn Wilde. Elle aménage de grands appartements pour des personnes très connues de la mode, notamment. Et donc, avec cette décoration, elle découvre aussi ce que ça veut dire en termes de travail et de contact avec les personnes qui demandent ces chantiers. Et je dis chantier parce que ça lui prend plusieurs années, que, évidemment, tout son travail sur la laque est très long et que ça va énerver certaines de ses clientes. Donc, en fait, elle découvre aussi ce que c'est que de vendre et de faire des chantiers avec des personnes qui attendent la fin des chantiers.
Qu'est-ce que ça représente pour l'époque, ouvrir un magasin en tant que femme célibataire en son nom, même si le nom qui est sur la façade n'est pas le sien ?
Alors, je pense que là encore, on est dans une forme de transgression. Et notamment parce que c'est une grande bourgeoise. Donc, il y a déjà aussi ce changement de décider de vendre. Tout simplement, d'être dans ce commerce. Et donc là, je pense qu'elle est dans quelque chose qui n'est pas commun. Donc en fait, c'est un monde à nouveau de femmes qui prend en main un lieu important de monstration, j'allais dire. Déjà, la rupture, c'est la monstration. La rupture, elle est aussi dans la devanture, qui est très moderne par rapport aux bâtiments qui sont autour. Donc il y a une déclaration de modernité. Et puis à l'intérieur, par l'importance des objets, surtout à l'époque art déco qu'elle présente.
Elle est indépendante, elle choisit son indépendance.
Milena Charby, architecte et chercheuse.
Elle conçoit ses meubles, elle conçoit ses maisons et elle décide de travailler chez elle. Avant, avec Jean Désert, c'était aussi le cas, c'est-à-dire qu'elle avait quand même un atelier. Et pour une femme à cette époque-là, c'est quand même très pionnier. Du coup, moi, effectivement, je la considère aujourd'hui, de mon point de vue, comme une personne féministe, absolument.
On peut dire que la boutique a eu une vie assez courte puisqu'elle va exister de 1922 à 1929 et que après c'est une page qui va se tourner pour elle, j'allais dire définitivement. Elle va faire d'autres travaux, d'autres recherches. Elle va pas chercher à avoir un public en ayant un commerce sur la rue. Et donc pour elle, la rupture, c'est l'arrêt de ce magasin. Et je pense qu'à partir de là, elle part vraiment dans les plans, l'interrogation des immeubles, des lieux de vie, et que c'est ça qui va la préoccuper à partir de ce moment-là. Elle rencontre la modernité qui commence à casser un certain nombre de choses, et notamment qui rend has-been, j'allais dire, les arts déco. Et elle fait partie de ces personnes qui comprennent que tout est à casser et à changer.
Après, elle s'intéresse assez rapidement à d'autres formes et d'autres matériaux moins classiques. D'une certaine manière, la laque, c'est un matériau réservé à une certaine classe. Et en fait, rapidement, elle s'intéresse à ces autres matériaux qui sont des matériaux associés d'habitude plutôt à l'industrie, donc des tubes en inox, en acier, etc. etc. Enfin, plutôt du métal et des matériaux un peu plus stériles, on va dire, d'une certaine manière, qui vont ensuite devenir partie intégrante de son architecture. Et ça correspond bien sûr à l'esthétique moderne, entre guillemets. Alors, quand elle est dans le milieu parisien des années 20, il y a une photo d'elle qui a été prise par une photographe très connue, Bérénice Abbott. On voit donc Hélène Gray avec un carré noir très court et des bagues un petit peu marquantes en argent. On sent que c'est quand même une certaine personnalité, c'est quelqu'un qui s'affirme.
Et en fait, c'est ce portrait qu'on voit continuellement dès qu'on ouvre un livre sur elle. Pourquoi ? Parce que la modernité est là, devant nous. Elle a les cheveux courts, à la garçonne. Elle est habillée d'une manière très stricte, avec un col blanc. Et en fait, elle est la synthèse de la plupart des photos que fait à l'époque Bérénice Bott des femmes intellectuelles qui l'entourent. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que Hélène Gray correspond tout à fait à cette personnalité qu'elle nous donne, c'est-à-dire cette garçonne qui est une fonceuse et qui correspond à toutes celles qui sont dans son milieu à ce moment-là. C'est la vision qui nous reste parce que c'est la photo qui est le plus souvent montrée en parlant d'elle.
On va aller juste au bout de la rue, tourner à gauche et prendre la rue Jacob.
On y est, on est au 20 de la rue Jacob, donc où s'est installée dans les années 1910 Nathalie Barnet, une Américaine qui est arrivée à Paris pour avoir une certaine liberté, parce que très vite dans sa jeunesse, elle a découvert qu'elle était lesbienne, même si à l'époque le terme n'était pas utilisé de cette façon. Alors le lien avec Hélène Gray, c'est que ça va être un grand salon littéraire qui va démarrer là, avec une grande, grande proportion de femmes qui vont venir parler littérature, parler amitié, parler poésie, et faire parfois des scénettes dans le jardin, parce que là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un petit temple qu'elles vont appeler le temple de l'amitié, avec un jardin. Ça va devenir le haut lieu de la littérature, disons, où on peut être assez libre sur sa façon de se montrer et de se présenter avec la ou les femmes qu'on aime. Parce que Nathalie Barnet décidera de ne jamais faire de secret de ce qu'elle vit. Elle va écrire des textes non ambigus, on peut dire. Et elle va même faire des sortes d'actes de mariage avec des femmes comme Elisabeth de Gramont et Romaine Books, la peintre. Donc on peut imaginer ce milieu assez étonnant où Hélène Gray va venir pendant un petit moment assez régulièrement pour qu'elle soit mentionnée dans un livre où Nathalie Barnet s'amuse à mettre tous les noms des personnes qui sont venues et qui ont quand même participé à certains des événements. Et on y trouve le nom d'Hélène Gray.
Elisabeth de Gramont, dans Feuillets d'art, 1922. Miss Gray veut créer la chambre tout entière, depuis les rideaux, les tentures, les tapis, les étoffes, jusqu'aux éclairages, pour former un ensemble beau, comme un poème. Elle rêve alors cette chose difficile de faire des ensembles d'une cohésion parfaite, réunissant au dessin de lignes renouvelées une palette où se jouent les tons fauves et nocturnes. Elle veut créer des intérieurs conformes à nos existences, aux proportions de nos chambres, et aux aspirations de notre sensibilité. Son sens artistique est heurté à la pensée que les objets qu'elle a inventés seront, au gré des acheteurs, flanqués dans on ne sait quelle chambre, afin que le propriétaire puisse dire avec orgueil « Vous voyez, j'aime aussi le moderne. »
Toutes ces femmes, toutes ces intellectuelles, parce que en fait, on est au milieu d'intellectuels, se donnent les unes aux autres la liberté de penser et d'être écoutées, ce que dans les autres milieux, elles n'ont pas, en fait. Et que d'un coup, on les écoute, on les croit et on les entend. C'est-à-dire qu'on entend aussi leur modernité à chacune. On n'est pas en train de soupeser comment elles se présentent, comment elles parlent. Et comment elle pense. Et pour moi, en fait, l'erreur, c'est toujours de c'est important de savoir qu'elles vivent ensemble, qu'elles ont une sexualité heureuse. Bon, ça, on pourrait espérer qu'elles peuvent avoir tout ça. Mais aussi et surtout que ce sont des femmes qui trouvent d'un coup avec d'autres femmes cette possibilité de penser, de se penser elles dans le monde. Je pense que c'est évidemment quand elle va commencer à faire de l'architecture avec Badovici qu'elle va changer complètement aussi sa façon d'interpréter et de rentrer dans la modernité. Mais je pense que celles qui lui ont donné les forces de tout ça, c'est toutes celles qu'on croise dans les rues de Paris et qu'elle a rencontrées à un moment ou un autre de sa vie, même si après elle ne les verra plus.
Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, une heure trop brève, qui ne veut pas finir.
Hélène Gray a eu des relations amoureuses, plus ou moins connues, on en connaît quelques-unes. Elle a été la partenaire de Damia, qui était une chanteuse très connue des années 20, qui avait un guépard apprivoisé. Ensuite, elle a eu aussi d'autres partenaires au long de sa vie, mais ça reste quand même quelqu'un d'indépendant, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans sa vie, elle n'a vraiment cohabité, je dirais, avec quelqu'un. Donc ça, c'est toujours été des épisodes assez courts, mais ça reste quand même quelqu'un, finalement, d'assez solitaire dans son parcours. Une personne importante, si on s'intéresse à la généalogie de son architecture, c'est Jean Badovici, qui est un architecte roumain qui habite Paris et qui est francophone, avec qui elle a une histoire et qui est important puisque l'architecture qui émerge de cette histoire est cette icône E1027. Moi, personnellement, je pense qu'elle s'intéresse à l'architecture très tôt. Après, il faut peut-être redéfinir qu'est-ce que c'est que l'architecture. Est-ce que c'est que l'art de construire ou est-ce que, en fait, tout ce qui est autour de l'arrangement des espaces et la création d'espaces est partie prenante de l'architecture? C'est ma position. Donc, moi, je pense qu'en fait, Badovici a un rôle important puisqu'il l'introduit à vraiment l'architecture moderne, qu'est-ce que c'est. Mais moi, personnellement, je pense qu'elle s'est intéressée à l'architecture bien avant. Je pense que nommer la maison E1027 est un geste romantique. C'est l'idée de dire ce sera notre maison et donc elle porte de manière codée nos deux noms. Après, quant à la question de qui a dessiné, c'est très clair que c'est elle qui l'a dessiné. Hein. Bien que ensuite il y ait une espèce d'imprécision sur effectivement qui a dessiné cette maison.
Il n'est pas fréquent de donner un nom aussi original à une villa.
Hanté de Vire.
Et pour autant, celui-ci résume assez bien le projet, qui est le projet de deux personnes. Donc, ils sont indissociables dans ce projet. Hélène Gray et Jean Badovici. Ce nom, c'est le E d'Aileen. Le 10, c'est la 10e lettre de l'alphabet, donc l'initiale de Jean. Le 2, c'est l'initiale de son nom de famille, 2e lettre de l'alphabet, le B de Badovici. Et puis, naturellement, le 7, c'est le G de Gray, 7e lettre de l'alphabet.
On vous suit pour la suite de la visite.
Attention à la marche. Et nous arrivons dans la chambre de Jean Badovici, un espace ouvert. Et si on regarde au sol, on s'aperçoit là aussi qu'on a deux couleurs de carrelage.
La chambre à coucher principale. De cette chambre, on peut sortir dans le jardin par un petit escalier extérieur. La chambre est ensoleillée du matin au soir. Et grâce aux fenêtres paravent, l'entrée de la lumière et de l'air est réglable à volonté, comme par un obturateur d'appareil photographique.
Ellen Gray refuse assez rapidement l'idée que l'architecture est une machine à habiter, qui est un terme articulé par l'architecte franco-suisse Le Corbusier. Machine à habiter, en fait, ce serait l'idée de dire qu'on produit un habitat. Donc si on imagine que les espaces dans lesquels on habite sont des petites boîtes, pour qu'on puisse habiter dans cette petite boîte, il faudra un certain nombre de composants, c'est-à-dire il va y avoir une chambre, une salle de bain, une cuisine, un salon, une accessibilité des fenêtres, etc. etc. Donc il y a un côté machiniste, c'est-à-dire il y a un côté agencement qui résulterait d'une certaine tendance à la standardisation et à la systématisation de l'habitat qui émerge en fait du modernisme et qui est donc pas du tout ce que Ellen Gray défend. Bien qu'elle a des aspects de cette architecture moderniste qui sont par exemple les pilotis, donc on a un bâtiment qui se détache du sol, on a des toitures terrasses, donc plates, et puis on a des espaces intérieurs ouverts et des fenêtres à l'horizontale et puis des façades qui ne sont pas forcément en relation avec l'intérieur. Donc ça, c'est les points de l'architecture moderniste, elle en prend et elle en laisse. C'est-à-dire que bien que Île 1027 soit considéré comme un bâtiment qui fasse partie de ce catalogue des icônes de l'architecture moderne, elle s'en libère à certains moments et elle, par exemple, elle dit, elle se moque de ce toit terrasse où on ne va jamais. Et donc, en fait, elle s'accommode de certains points, elle prend une liberté avec ces points du modernisme, en rejet, en fait, à cette idée de machine à habiter.
Elisabetta Gaspard.
Badovici, il était architecte, mais aussi rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Architecture Vivante, où Le Corbusier écrivait des articles. Et il faisait également partie, Badovici, de l'Union des artistes modernes, voilà, avec Le Corbusier. Jean Badovici avait invité Le Corbusier à venir voir cette maison déjà en 1937. Et on sait qu'il est revenu donc en 1938, et c'est là qu'il a fait les premières peintures. Il a demandé l'autorisation à Jean Badovici, qui lui a accordé. Donc il a fait la peinture dans le salon. Et ensuite, il fera aussi, la même année, celle qui est sous les pilotis, les trois femmes enlacées. Il revient en 1939. Et là, il fera cinq autres peintures, toujours en écrivant Jean Badovici, en lui demandant s'il pouvait, au fait, exécuter ses œuvres qu'il avait déjà préparées préalablement. Voilà.
Et alors, il y a des photos. Il se met nu. Et il prend ses pinceaux et il dessine des gros traits noirs, en fait, avec des formes où on voit des femmes nues. Et il utilise des couleurs primaires, du bleu, du rouge, du vert. Ça marque assez fortement un geste de vandalisme. Donc Le Corbusier, c'est quelqu'un qui a un ego démesuré et qui, au contraire, pense que c'est une sorte d'hommage qu'il a rendu à cette petite bicoque d'aller y apposer ses traits de génie. Donc c'est bien entendu une position complètement contraire à celle que perçoit Gray, qui, elle, se vexe.
Oui, alors il faut dire que la maison, elle est de Jean Badovici. Donc peut-être celui qui l'aurait fallu qu'il fasse plus attention, c'est Jean Badovici. Et Badovici, il était dans une admiration totale envers Le Corbusier. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une valeur inestimable hein, dans cette maison. Et on a une chance inouïe d'avoir des œuvres de cette taille-là. Après, c'est une interprétation. Voilà, Ellen Gray, malheureusement, ce n'était pas sa maison. Elle n'est pas restée ici très longtemps. Mais c'est sûr que, voilà, peut-être dans son idée de maison idéale, hein, parce que cette maison, c'est comme son bébé, c'est sa première œuvre architecturale, on peut comprendre que ses œuvres, elles ont un petit peu envahi son idée initiale de son œuvre.
Alors, allons-y. Depuis le vestibule d'entrée, on trouve ce petit escalier en colimaçon. Alors, il faut bien regarder les marches sont légèrement creusées.
On a construit un escalier de dimension aussi réduite que possible. La cage de l'escalier est beaucoup plus grande que le colimaçon. L'escalier paraît léger et aérien. La lumière vient d'en haut par la cage en verre qui sert d'accès sur le toit.
Plus on s'élève, plus il y a de lumière. On arrive sous la verrière. Cette verrière qui évoque à la fois le pont supérieur d'un bateau, mais qui d'une certaine manière est également un phare qui domine la mer. Ce site, il a une histoire, je dirais, longue. Il parcourt le XXe siècle. La présence d'Alan Gray s'arrête effectivement au début des années 30, mais l'histoire continue et c'est à la fois une aventure architecturale, mais également une aventure humaine. Le dénominateur commun, je dirais que c'est Le Corbusier, avec un centre de gravité des amitiés qui va se déplacer un petit peu plus haut, quelques mètres plus haut, là où sa relation avec Jean Badovici se dégrade. Finalement, il se prend de sympathie, puis d'amitié avec Thomas Robutato, au point que celui-ci lui cède le petit bout de parcelle sur lequel il construit son cabanon et où il laisse durablement sa trace. Et d'ici, on voit aussi s'écrire l'histoire de cet ensemble aujourd'hui appelé Cap Moderne, avec devant moi le bar-restaurant L'Étoile de Mer. On devine derrière le cabanon de Le Corbusier de 1952, encore plus loin derrière la végétation, une petite cabane blanche et verte qui est son atelier, qui fait installer en 1954. Et puis si on revient sur la gauche, juste au-dessus de la Villa 1027, ce petit bâtiment sur pilotis très coloré, 5 unités de camping construites par Le Corbusier pour Thomas Robutato.
Il y a quand même quelque chose d'assez saisissant à avoir les 5 unités de camping qui sont littéralement en fait en surplomb de la villa, comme quelque chose en fait d'assez imposant et je presque pas dire menaçant, mais en tout cas qui vient sur le territoire de la villa.
Il faut voir dans cette grande proximité des monuments, non pas une volonté d'envahir le paysage, mais il faut les considérer à mon sens comme une famille. Je parlais d'aventure humaine et il faut les considérer comme ça. Ils sont rapprochés parce qu'ils fonctionnent ensemble.
Corbusier a une relation obsessionnelle avec cette maison d'Hélène Gray, E1027.
Est-ce qu'on peut dire que tout ça a contribué à une forme d'effacement de la notoriété d'Hélène Gray au fur et à mesure du XXe siècle?
Alors, paradoxalement, je pense que c'est plus ces fresques qui ont contribué à cet effacement, parce que ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'il y a eu des photos qui ont été prises de ces fresques, de ces peintures murales du Corbusier dans la maison d'Hélène Gray, en fait, elle n'est pas mentionnée comme étant l'architecte de cette maison, et par amalgame, très rapidement, la maison est considéré comme étant, en fait, bien entendu, partie du design du Corbusier. Donc, il y a une espèce d'amalgame qui se fait par omission. Et puis ensuite, bien entendu, le fait qu'il y ait le cabanon et qu'il y ait les unités de camping, tout ça, d'une certaine manière, contribue à son effacement. Et puis, bien entendu, c'est là où Corbusier vient décéder dans l'eau devant la maison.
Archivina, 1965.
Cette maison de poète, ce modeste cabanon, c'était l'asile estival d'un bâtisseur de génie. Personne ne savait le nom du vieux monsieur qui se baignait là chaque matin durant l'été. Lorsqu'il est mort, terrassé par une crise cardiaque sur cette plage du Cap Martin, on a su qui était le vieil homme tranquille. C'était Le Corbusier, le magicien de l'architecture. Et aussi un poète et un peintre. Un homme hors du commun.
Deux ans après que 1027 ait été achevé, Eileen Gray, en 1931, commence à dessiner, à concevoir les plans de Tempe Appaya.
Milena Charby, architecte et chercheuse.
C'est un dicton local qui veut dire le temps de bâiller. Elle reprend un petit peu les plans de 1027, mais elle les adapte complètement au site et en fait une maison complètement différente. Alors que 1027 est une maison qui est tournée entièrement vers des espaces de réception. Tempe Appaya, tous les espaces sont tournés vers l'intérieur, en fait, vers son intérieur à elle. Elle dessine les espaces à la mesure de son corps et elle place dans les espaces principaux, notamment dans le séjour et sur la terrasse, des lits simples. L'indépendance est déjà présente dans 1027, puisque Eileen Gray dessine chaque pièce avec sa porte indépendante sur l'extérieur. Donc il y a déjà cette notion d'une grande volonté d'indépendance dans 1027 qu'elle vient dans Tempe Appaya pousser encore plus, puisque là il s'agit même plus d'indépendance, il s'agit vraiment du choix d'être seule. Ensuite, Aileen Gray dans Tempe Appaya se concentre autour de son travail. Le travail dans un lieu domestique, c'est aussi une manière pour les femmes à cette époque-là de se réapproprier le travail. Elle a aussi inventé du mobilier uniquement pour Tempe Appaya. Donc il y en a un qui s'appelle le meuble mobile à jupe et pantalon. Donc ça aussi c'est super intéressant parce que la jupe ou le pantalon. Donc
le meuble mobile pour pantalon s'inscrit dans la continuité des meubles de rangement mobile et à système imaginés par Aileen Gray. Si la majorité d'entre eux ne renvoient à aucun modèle de référence et sont strictement issus de son imaginaire lyrique, celui-ci, au contraire, s'inspire manifestement du piano à queue. Il emprunte à l'instrument, dans sa partie supérieure, les lignes du cadre, le dessin et le système des marteaux ainsi que les roulettes. Les cintres, mobiles, d'une finesse absolue dans leur design, se retirent pour accueillir les pantalons pliés. La transparence du celluloïde offre la liberté de lire la mélodie vestimentaire et chromatique d'Aileen Gray, appartenant indiscutablement au répertoire moderne.
Le pantalon, c'est pas forcément un vêtement que les femmes portent de manière commune à cette période-là. Elle invente aussi un autre objet qui est le siège escabeau porte-serviette. Cette maison, c'était aussi un laboratoire pour créer de nouveaux objets à son échelle, mais qu'à chaque fois, c'est juste pour elle. Elle a jamais voulu éditer ses objets comme elle le faisait à Jean Désert. C'était vraiment à usage unique. Et ces objets me permettent de comprendre comment elle a habité dans ces espaces et les photos de ces objets aussi. Il n'y a jamais de photo d'elle, elle se prend jamais en photo, elle ne fait jamais d'autoportrait, ou en tout cas on n'en a pas trop trouvé. Et donc on la voit pas dans ces espaces de vie, elle apparaît un peu comme un fantôme. Enfin voilà, moi parfois je cherche son ombre sur les photos parce que j'aimerais bien pouvoir la voir quelque part, dans un reflet de miroir, dans un reflet de vitre, dans un reflet même de son carrelage noir qu'elle pose sur sa terrasse. C'est presque, en fait, comment dire, une archive à ciel ouvert, d'une certaine manière, puisqu'on lit dans son architecture sa pensée, en fait. Et dans son mobilier, on peut comprendre que, voilà, elle avait besoin d'un siège escabeau porte-serviette, parce que ça l'a amusée, peut-être, à un moment, de faire ce siège, parce que, aussi, elle avait besoin d'accéder à tous ses rangements au plafond. Donc, on comprend qu'elle aimait avoir des rangements partout pour ranger toutes sortes de choses, notamment ses maquettes et ses objets. Voilà, toutes ces petites histoires, en fait, qui sont racontées à travers son architecture. Ça apporte, en fait, une émotion supplémentaire de voir en fait comment elle a réfléchi le moindre geste.
Dessiné au début des années 1930 pour Tempe Appaya, le siège escabeau porte-serviette en bois peint bicolore, blanc et vert foncé, est l'une des pièces de mobilier les plus emblématiques de la villa. Embrassant à lui seul trois fonctions, siège, escabeau et porte-serviette, il s'inscrit pleinement dans les recherches d'Aileen Gray menées sur l'optimisation de l'espace. Dégager l'espace de toute contrainte mobilière, devenant un des leitmotifs de la modernité, Aileen Gray, en multipliant les fonctions pour un seul et même objet, réduit à un strict minimum le nombre de meubles nécessaires à son usage personnel.
Je ne suis pas spécialiste d'Aileen Gray, je préfère le préciser. J'écris un livre sur les architectures lesbiennes et c'est dans ce cadre-là que je rencontre Aileen Gray. Ce qui m'anime beaucoup, c'est de pouvoir redonner aux lesbiennes le fait d'avoir été architecte, d'avoir conçu des espaces qui se forment à leur domesticité, à leur mode de vie. Justement, il n'y a pas une manière de créer une architecture lesbienne. Enfin, c'est pas du tout ça mon livre. Mon livre, c'est plutôt de m'interroger sur comment le fait d'avoir des pratiques sociales lesbiennes ou en tout cas homosexuelles ou de culture lesbienne ou de personnes s'identifiant comme telles influence la manière de concevoir des espaces. Et du coup, il n'y a pas une manière, mais il y a une série de typologies, de motifs qui viennent se répéter. Et ça, c'est en fait en faisant de nombreuses recherches et en comparant de nombreux projets que j'ai pu en fait définir ces motifs et les observer. Dans le cas d'Aileen Gray, ce motif qui est très intéressant, c'est la solitude, le choix de la solitude. Donc vraiment de choisir d'incarner cette solitude jusque dans le lit simple. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans ce que j'ai trouvé dans les archives de la bibliothèque Kandinsky, c'est que en 1936, Eileen Gray dessine et conçoit un centre de vacances. Elle l'appelle le Holiday Center, et sur une photo, il y a marqué « Maison pour célibataires » avec son écriture, donc c'est elle qui écrit ça, comme si elle pouvait imaginer que son mode de vie de célibataire pouvait être aussi un mode de vie pour le collectif, pour le logement collectif, et qu'on n'était pas que dans un modèle voilà hétérosexuel avec l'appartement collectif. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça très intéressant de comment, par son mode de vie à elle, elle le transpose à un usage collectif. Alors, les espaces extérieurs de Tempe Appaya ne sont pas visibles, enfin, ou en tout cas, ont le choix, la possibilité de ne pas être visibles. D'ailleurs, elle dit qu'une fenêtre sans fermeture est comme un œil sans paupières. En tout cas, il y a chez elle une volonté de pouvoir à la fois se cacher et à la fois être complètement nomade, modulable, réversible, versatile. Et dans les architectures que j'étudie, dans les projets que j'ai étudiés, il y a effectivement, à cette époque-là, de nombreuses femmes lesbiennes ou de culture lesbienne, ou qu'on peut appeler lesbiennes de manière rétroactive, qui ont eu besoin de se cacher. Des archives ont malheureusement été supprimées, brûlées par l'entourage ou les personnes elles-mêmes qui étaient honteuses de leur sexualité ou qui ne souhaitaient pas que ça se sache.
Je pense qu'Hélène Gray, c'est pas du tout quelqu'un de nostalgique, donc c'est quelqu'un qui a tourné la page en fait très rapidement.
Charlotte Malterbach.
Une fois qu'elle a en fait, elle a décidé de plus remettre les pieds à E1027, elle passe à autre chose en fait assez rapidement. Elle détruit une partie de ses archives à un certain moment dans sa vie où elle a dû considérer que ça n'avait pas de valeur et qu'elle voulait pas que ça soit quelque chose qui reste comme un marqueur de son travail. Donc quelqu'un de finalement assez radical, je dirais à ce niveau-là.
Eileen Gray était une personne très pudique. À la fois, j'ai l'impression qu'il manque énormément pour pouvoir la comprendre. Les archives, comme je le disais, sont assez lacunaires. Il y a peu d'écrits d'elle. Les interprétations fusent, du coup, forcément, puisque quand il y a peu de matière, on peut surinterpréter. Moi, quand je cherche dans ses archives, et ben forcément, je vais regarder par un certain prisme et une autre personne va regarder par un autre prisme. Et c'est tout ça l'enjeu d'une recherche. Tout le monde a son interprétation puisqu'il veut voir ce qu'il a envie de voir.
Et donc, c'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup plus qu'il n'y paraît dans cette histoire, en fait. Et que dès qu'on commence un petit peu à gratter, on s'aperçoit qu'il y a toutes ces couches d'histoire. Donc, il y a des histoires de jalousie, il y a des histoires de relations amoureuses, il y a des histoires de haine. Mais finalement, il y a aussi des histoires de plus simples, de beauté, des espaces, de paysages. Enfin, il y a tout un tas d'histoires qui viennent se greffer sur, finalement, cette maison. Enfin, si on parle que de la maison, mais en tout cas sur la figure d'Hélène Gray de manière générale. Donc effectivement, je pense que ça prête à projeter et à réfléchir de manière très intéressante sur aussi des enjeux finalement contemporains.
Eileen Gray vend la villa Tempe Appaya en 1954 et s'aménage dans les années qui suivent un autre lieu de villégiature sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez. Construite à partir d'une ancienne bastide, Lou Pérou est sa troisième réalisation architecturale et ce sera sa dernière. Elle a alors 76 ans. Il faudra encore une dizaine d'années pour que son travail soit valorisé par une rétrospective ou encore des articles dans des revues spécialisées. Une reconnaissance professionnelle qui arrive à la fin de sa vie et qui se poursuit aujourd'hui.
Alors je pense que l'histoire de l'architecture est en train d'être revisitée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, en ayant regardé toujours un peu les mêmes personnes, les mêmes figures, etc., on n'avait qu'une partie de l'histoire réelle. Et donc, il y a un mouvement de pivot qui est en train de s'effectuer sur l'histoire de l'architecture, c'est-à-dire on recommence à regarder tout ce qu'on n'avait pas regardé avant. Et donc, Hélène Gray, elle fait un peu partie de cette redécouverte de l'architecture, le fait qu'on essaye effectivement d'aller au-delà des icônes fait que effectivement Hélène Gray, je pense, a repris une place beaucoup plus reconnue dans cette histoire de l'architecture. Elle a été reconnue en fait, Juste avant sa mort, il y a eu des biographies, il y a eu quelques expositions. Son œuvre et le peu de ce qui reste, parce qu'en fait, il y a assez peu de choses. Par exemple, à sa place dans le Musée national d'Irlande, enfin, il y a des collections qui existent de ses œuvres. Il y a très peu de ses documents personnels. Elle a détruit beaucoup de choses. Donc, évidemment, les historiens et les historiennes sont dans une position difficile où il y a finalement assez peu de documents restants sur cet architecte. Mais quand même, son œuvre parle finalement d'elle-même. Et donc, je pense qu'on est vraiment dans une période où on redécouvre Hélène Gray comme étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une figure pionnière de l'architecture moderne.
Ainsi, cette toute petite maison concentre dans un espace réduit tout ce qui peut être utile au confort, aider à la joie de vivre. Nulle part, on a cherché une ligne ou une forme pour elle-même. Partout, on a pensé à l'homme, à sa sensibilité, à ses besoins.
Donc, Eileen Gray passe ses dernières années à Paris, dans son appartement de la rue Bonaparte, qu'elle a meublé d'ailleurs avec le mobilier en partie de Tempe Appiah. Et c'est là qu'elle décède en 1976. J'ai vu des photos d'elle dans son appartement qui sont très belles. Il y a une photo qui m'a marquée. Elle est assise sur un canapé qu'elle a dessiné, un très beau canapé en cuir. Et au-dessus de sa tête, il y a une peinture. Cette peinture est dans un cadre qui ressemble à une maison avec un toit en pente. Et cette peinture représente deux femmes. Et moi, dans mon livre, j'introduis ce symbole de la maison avec deux femmes ensemble comme quelque chose parfois d'inatteignable, notamment à cette époque-là. Et je veux pas non plus surinterpréter cette image, mais pour moi, ça, c'était quelque chose de très beau de trouver ça dans ces archives.
Vous avez souvent utilisé l'expression de femme célibataire pour parler des femmes de cette époque. Peut-être pour décoder, quand on dit femme célibataire, Catherine Donard, à l'époque, on parle de femmes qui, du coup, ne sont pas dans un modèle hétérosexuel et donc sont soit, on va dire, d'une indépendance très affirmée, soit, on dirait aujourd'hui, bisexuelles ou lesbiennes, quelque part, en dehors de la norme dans leur relations amicales et sexuelles, dans un sens large.
Même actuellement floues, même si elles s'affirment dans leur vie, sur leur intimité et tout ça, elles sont floues. Elles ne sont pas floues pour celles qui savent, mais elles sont floues pour tous les autres. Et donc moi j'aime bien dire, dans les années 20, on est flou, on va le redevenir dans les années 2020. Entre les deux, il a fallu l'affirmation des identités pour avoir des droits. Mais elles sont avant cette période-là. Et maintenant, on est dans une période après. Et donc, il est possible d'être flou, c'est-à-dire de ne pas vouloir marquer son identité sexuelle, vivre avec peut-être plus de femmes que d'hommes, choisir en fait d'être tout simplement avec qui on veut au moment où on veut. Et je pense que c'est ça plus qu'elle affirme Hélène Gray, et qu'elle nous dit « soyons libres ».
Merci à Catherine Gonard, Elisabeth Gaspard, Antide Vian, Charlotte Malterbart et Milena Charby. Les textes lus par Nathalie Canoui sont extraits de E1027, Maison en bord de mer, d'Aileen Gray et Jean Badovici, publié en 1929 dans L'Architecture vivante. Les lacs de Miss Aileen Gray, par Elisabeth de Gramont pour la revue Feuillet d'art en 1922. Et les descriptions des meubles sont de Renaud Barès et Chloé Pithiot pour le livre Eileen Gray, une architecture de l'intime, édition Cap Moderne et Centre Pompidou, publié en 2017. Prise de son, Frédéric Kérou, Cédric Chatelus, Mineta Diawara, Pierrick Charles et Tahar Bouklifa. Mixage, Pierre Henry. Archivina, Émilie Lacot. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Eileen Gray, 1878-1976, Intimité moderne. Un documentaire de Camille Regache, réalisé par Agnès Catou.